Europe 1,
11h30,
le meilleur de bienfaits pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bienfaits pour vous, votre émission bien-être dédiée au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors au programme aujourd'hui, on vous a concocté un programme avec simplement la crème de la crème. Les meilleurs moments de l'émission, rien que pour vous. Julia, par quoi on attaque ?
Alors on va débuter ce magazine avec cette question. Est-ce qu'on ne reverrait pas un peu nos bonnes manières à table ? Ça tombe bien, ce soir c'est réveillon, faut bien se tenir. D'ailleurs, savez-vous comment se dresse une table dans les règles de l'art ? Comment disposer les convives ? On va tout revoir ensemble avec Jérémy Combe. Il est expert en bonne manière et notamment auprès des candidates au concours Miss France. On sera donc entre de très bonnes mains.
Après ça, Julia, on va étudier les rencontres de près, car c'est vrai qu'il y a des rencontres qui nous marquent plus que d'autres, qu'elles soient amoureuses, amicales ou bien même professionnelles. Et parfois, ces rencontres, elles changent tout, elles nous bouleversent. On détaillera tout ça avec le philosophe Charles Pépin.
Et puis, on va mettre en lumière ce matin également une méthode pour éviter de nombreuses maladies. C'est la méthode des 4 S du docteur Christian Recchia, un guide simple pour rééquilibrer sa vie. En gros, on va vous apprendre à bien maîtriser votre sphère alimentaire, votre sommeil, votre stress et votre sport. Beaucoup de bienfaits en perspective ce matin, je vous le dis d'avance.
Voilà, c'est bien fait pour vous. Vous êtes sur Europe 1, évidemment. Et donc, ce matin, dans votre émission Bien-être, Mieux Vivre, on va essayer de se pencher sur cette question. Est-ce qu'on ne devrait pas tous revoir un peu nos bonnes manières à table ?
Moi, je crois que je me tiens plutôt pas mal lors des dîners, mais je suis quand même un petit peu curieuse d'avoir une piqûre de rappel. Comment dresse-t-on une table en respectant vraiment les règles de l'art ? Et si je renverse la salière ou pire, un verre de vin, comment réagir ? On va tout vous détailler dans quelques minutes, mais tout de suite, je vais laisser la place à notre monsieur Bonne Manière. Enfin, presque. Bonjour. Clément Lanoux.
Mesdames, quelle pression. J'espère que tout va bien. Effectivement, on va parler des bonnes manières, le savoir-vivre à la française. Je suis parti interroger des personnes un petit peu au hasard dans la rue, voir si les codes étaient respectés ou pas. On commence avec cette personne qui nous fait un petit rappel, petite piqûre de rappel des bonnes manières.
Alors, selon moi, les trucs à ne pas faire à table, mettre les coudes sur la table pour commencer, couper la parole, alors ça c'est même pas la peine, couper sa salade, retourner le pain, se servir soi-même et bien sûr... danser torse nu sur la table, ça peut faire vraiment mauvais genre.
C'est vrai que ça fait mauvais genre.
Vous êtes dans ces dîners-là, vous ?
Je suis dans tout type de dîner, effectivement.
Et puis ça dépend de l'heure, hein, quand
ça
même.
Ça dépend de l'heure, on a le droit. Non, il y a des choses à savoir. Il y avait des choses vraies, évidemment, dedans. Il y a une pression, quand même, c'est celle des couverts. Quand nous, on organise un dîner, comment mettre et bien dresser une table ? Même parfois, au restaurant, vous allez voir que c'est compliqué si on va dans un restaurant.
Moi, je suis nulle. J'aime pas du tout les restos chics pour ça, parce que je suis mal à l'aise avec toutes ces règles, tous ces protocoles et tout. La seule chose que j'ai retenue, on me l'a dit une fois, j'ai retenu, c'est on commence avec les couverts depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et après, les verres, je galère, le vin, l'eau, lequel, je ne sais pas. Je vois lequel est rempli, je bois, c'est tout.
Voilà,
c'est pratique.
On n'est pas libre, s'il y a de l'eau, on boit de l'eau, s'il y a du vin, on boit du vin, on se laisse servir. Il y a effectivement aussi des plans de table. Est-ce qu'on est pour ou contre les plans de table ? On l'abordera sûrement dans l'émission tout à l'heure, c'est assez compliqué pour beaucoup.
Alors moi, je suis contre les plans de table, parce que déjà, c'est galère à faire. Et puis, quand on est invité, on aime bien choisir à côté de qui on va s'asseoir.
Le plan de table à mon mariage, je pense que c'est un des pires moments de ma vie.
Ah bah c'est vrai, parce qu'il faut, jouer, là c'est les grands, grands repas, il faut jouer avec les familles qui s'entendent bien, ceux qui, lui est divorcé, on va pas le mettre
lui,
avec
lui. Lui, il mettra l'ambiance,
voilà.
Donc ça c'est bien. Oh là
c'est
là,
pour ça, c'est assez compliqué à faire. Et puis une autre question qui stresse aussi pas mal de Français, c'est qu'est-ce qu'il faut ramener quand on est invité à un dîner ?
Quand je suis invité chez quelqu'un, j'aime bien ramener une bouteille de vin ou un spiritueux, bien sûr sans oublier le légendaire bouquet de fleurs pour madame. Donc voilà, c'est une bonne règle de bienséance.
Donc là, on est dans la tradition, le bouquet de fleurs pour madame, mais les mœurs évoluent, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce que ça ne devient pas justement un peu même too much de ramener des fleurs ? On ne sait pas, je trouve que ça ne se démode pas. Mais il y a des codes assez anciens qui, normalement, doivent être respectés encore aujourd'hui.
Bon, c'est vrai qu'à l'ère de MeToo, et moi je suis quand même féministe au fond de moi, j'adore quand un homme me sert du vin à table. Je trouve ça hyper classe et c'est très chic et j'adore ça et j'aimerais que tous les hommes...
Tous les hommes
me servir tout le temps du vin à table. Voilà, continuez.
Avec modération, avec modération. Mais ça, apparemment, ça fait partie des traditions qu'il faudrait garder. Et le baise-main, on en pense quoi ? Je tombais sur quelqu'un qui était plutôt pour.
Eh ben moi, j'aimerais vraiment qu'en arrivant au travail demain matin, patron me fasse le baise-main. Je trouve ça vraiment incroyable. Aujourd'hui, il n'y a que la reine d'Angleterre qui a le droit et c'est pas normal. Donc, Benjamin, si tu m'entends, je t'attends demain matin juste devant le bureau, juste pour ça.
Ouais, là, il y a autre chose que juste un patron et son employé, je crois.
Oui, non, là, ils s'entendent bien. Je pense qu'ils sont
se
assez complices.
Chose, là, ouais,
déjà, on n'est pas dans l'art de la table, plus justement.
Exactement. Merci beaucoup Clément Lanoux pour bon medley de témoignages toutes générations confondues. C'était parfait pour démarrer, comme toujours. Mais tout de suite, attention, on démarre plus sérieusement le cours de bonne manière du jour. Et pour cela, j'accueille notre expert en la matière. Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour, je suis ravi d'être avec vous.
Et nous également. Vous êtes spécialiste donc de cette discipline que vous enseignez notamment aux candidates du concours Miss France. Alors, si on regarde les Français en général, quel est le constat en 2021? Est-ce qu'on a vraiment complètement perdu nos bonnes manières, notamment à table, puisque ça va être notre sujet aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, vous, quand vous êtes au restaurant, il y a des choses qui vraiment reviennent tout le temps et vous choquent un peu?
Alors, je pense qu'on n'a pas perdu les bonnes manières, mais elles ont évolué, elles se sont adaptées avec le temps, parce qu'on est quand même en 2021, il ne faut pas non plus passer pour le vieux dinosaure attaché à ses principes. En revanche, il y a quand même des manières qui sont pour moi incontournables et qui servent toutes les générations. Parce que j'ai coutume de dire que quand on sait ce qu'il faut faire, on peut s'autoriser à ne pas le faire. Parce que si on vous prend en flag, vous pourrez toujours vous dire « Hey, je sais comment faire » et on est 10 fois plus à l'aise.
Donc c'est d'où l'intérêt quand même de connaître les bonnes manières, même si on ne le pratique pas tout le temps, mais c'est bien d'avoir ce background en nous.
Exactement, ça donne une assurance, c'est-à-dire que vous et moi, on s'est tous retrouvés dans des situations ou chez des personnes avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Quand on sait comment on doit faire, ça allège notre sac à dos, on est quand même beaucoup plus détendu. Il n'y a rien de pire qu'un déjeuner ou un dîner avec, ben justement, dans votre magnéto, on le disait, découvert dans tous les sens. Souvenez-vous de Pretty Woman, on lui avait tout appris sauf la pince à escargot, manque de bol, il y avait des escargots. Donc même si jamais on commet un impair, c'est pas très grave. À partir du moment où on limite quand même, entre guillemets, la casse.
La casse. Alors justement, quand on veut limiter la casse, est-ce qu'on reste sur les règles à la Nadine de Rothschild ou tout ça, c'est vraiment d'un autre temps?
Alors d'abord, Nadine de Rothschild a écrit beaucoup, beaucoup de manuels. Elle a donné des cours. Il faut remonter, ça remonte à la baronne Staff en 1889, qui est quand même celle qui a commencé la première à mettre dans un à écrire dans un petit précis ce qu'il fallait faire. Alors c'est très rigolo, je pourrais vous le prêter, c'est totalement désuet, totalement démodé, mais c'était toujours dans le souci de mettre des règles, parce que les règles n'ont, comment dire, que d'autre but que de faire en sorte que des individus de cultures différentes, d'éducation différentes, puissent vivre ensemble. Et oui, c'est désuet, mais elle s'adapte avec le temps. Je peux prendre comme exemple, aujourd'hui, quand on y reviendra peut-être, mais vous voyez, on ne coupe jamais sa salade. On doit toujours manger la salade avec une fourchette. Pourquoi? Parce que les lames autrefois étaient en vermeil et que le vinaigre attaquait le vermeil, ça tachait.
Ça n'a plus de sens aujourd'hui.
Ça n'a plus de sens. Ah, il y a tellement de grands magasins et puis il y a encore des couverts en argent. Mais même les lames ne sont plus en vermeil. Donc
acheter de la mâche, hein, ça se coupe pas.
Exactement. C'est une bonne solution.
Manger des frites.
Alors là, on expliquera.
Voilà.
Mais là, vous êtes en train de dire que, par exemple, ce qui ne se faisait pas à l'époque, c'est-à-dire couper sa salade, là, si on est invité, qu'on coupe sa salade avec des couverts qui ne sont pas
c'est
en argent.
C'est pas un drame. Si jamais vous voulez faire comme il faut faire, vous continuez à ne pas couper votre salade. Parce que c'est aussi, vous savez, les codes ont été faits pour, faire une différence entre les aristocrates au départ et les bourgeois qui voulaient. Il y avait une vraie différence avec ce qu'ils appelaient le bas-peuple. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on fait tous partie.
Les spaghettis, on a le droit de les couper?
Alors, les spaghettis, ça ne se coupe pas.
Ah non, voilà, il y a avec la cuillère et ça se tourne.
Alors, là, en France, on accepte la cuillère. En Italie, on vous dirait que c'est un péché mortel. Mais ces règles, elles n'existent pas par hasard. Dire à quelqu'un, il ne faut pas couper ta salade parce que ça fait bien.
Sans expliquer, c'est nul.
On s'en moque un peu. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettre des chaussettes
hautes. Alors que l'anecdote
hautes
avec les couverts en vermeil, j'adore.
Bah voilà. Mm. Pourquoi, j'ai toujours une petite. Pourquoi on doit. Quand vous inviterez à dîner la prochaine fois, vous remplirez le verre d'eau avant que vos invités ne passent à table.
Ah
pourquoi?
Ah ben, je sais pas.
Mais pour pas anticiper, pour pas attendre qu'ils aient soif.
Non, je rigole.
Non, c'est parce que. Ah, ça, j'ai une anecdote là-dessus. Le verre d'eau est toujours rempli parce que si un de vos convives a un médicament à prendre, il n'attirera pas l'attention sur son médicament.
C'est
et ça ne deviendra pas un sujet de conversation. Si vous avez une angine, c'est pas grave d'en parler, mais si vous avez une maladie plus importante, on n'a pas forcément envie d'en faire un sujet.
Donc on laisse la chambre ouverte si jamais quelqu'un a besoin de faire une sieste avant aussi. Faut tout anticiper en fait.
Vous, je vous sens un peu coquin.
11h30 sur Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine consacré au bien-être, au mieux vivre, tous les jours en direct de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui, on apprend surtout à bien se tenir en société et particulièrement à table avec notre invité Jérémy Combe, expert en bonnes manières. Vous avez d'ailleurs écrit le livre « Oser les bonnes manières » aux éditions Michel Lafon. Et ce matin, c'est sur Europe 1 qu'il dispense son savoir. Alors, on va mettre tout ça en pratique immédiatement de façon concrète. Disons qu'on organise un dîner ce week-end, on va recevoir sa famille à dîner par exemple. Comment on dresse les assiettes et les couverts? On met combien de verres?
Alors vous mettrez autant de verres que de propositions de vin. C'est-à-dire que si jamais vous décidez de servir un seul vin, une sorte de vin, vous mettrez deux verres. Toujours un verre pour l'eau et un verre pour le vin.
Et un verre d'eau rempli.
Un verre d'eau rempli, bravo.
Voilà. Parce que si ma belle-mère a des médicaments à prendre, au moins elle le fera discrètement, j'ai bien compris.
Exactement, je suis fier de vous. Donc, deux verres. Alors après, c'est pas très radiophonique. Si jamais vous ne mettez que des verres à pied, on est face à son assiette. Le plus petit verre sera le verre à vin et le plus grand, le verre à eau. Okay. Si vous mettez trois verres à pied, on met du plus petit au plus grand en regardant les verres.
D'accord.
Le plus petit sera le verre à vin blanc, celui du milieu, le verre à vin rouge, et le grand, le verre à eau.
D'accord. Ah oui, là déjà, c'est plus compliqué. Hein.
Ça se complique. Mmh.
Et la flûte, elle est où, la flûte de champagne?
Alors,
elle n'est pas toute
sur la table. Normalement,
on ne
sert pas de champagne à table, sauf en famille, pour les anniversaires, à la fin d'un déjeuner.
Oh, l'erreur,
ou d'un
Julia,
dîner.
L'erreur, Julia.
Ah, chez Julia, il y a toujours du champagne. Alors.
Oui, mais on peut le prendre, mais on prend le champagne debout.
Oui. Ah.
Alors ça, c'est encore un code, si j'adore. Où est-ce qu'il l'a trouvé. Parce que le champagne, normalement, c'est plutôt en début, c'est pour l'apéritif, ou alors c'est à la fin, c'est festif. Et un verre de champagne servi à table, ça permet, dans un petit studio par exemple, de permettre aux invités qui ne sont pas les uns à côté des autres de pouvoir se parler. Mmh. C'est pour ça aussi qu'on va prendre le café souvent au salon, ou si vous avez toujours un studio, vous servirez le café, non pas à table, mais debout, pour permettre les
échanges.
Ceux
qui étaient
loin
à table vont se retrouver, quoi, c'est ça.
Alors moi, je connais pour la fourchette justement le couteau, mais la cuillère, elle est dans quel sens? Et vers la droite, vers la gauche, la tête de la cuillère, ça je ne sais jamais.
Alors, la cuillère, la grande cuillère est toujours à droite, à côté du couteau.
Ça, bien sûr. Et la petite cuillère,
lui, il parlait de dessert,
vers la droite ou vers la gauche.
Cuillère. Alors, c'est très
cuillère,
simple, parce que s'il n'y a qu'une petite cuillère, vous la mettrez, elle regardera vers la gauche, parce que vous la descendrez quand vous allez la glisser.
Oui.
Vous savez, elle est verticale.
Au-dessus de l'assiette.
Au-dessus de l'assiette. Eh bien, vous la glisserez. C'est pareil si vous mettez sur votre droite, parce que si vous êtes droitier, évidemment.
Mmh. Alors, la serviette. J'imagine aussi que là, bah, y a... bon, déjà, on ne met pas en papier. J'imagine que ça ne se fait pas trop, les serviettes, à part lors de pique-nique.
Alors, je suis même un garçon moderne.
Alors, dites-nous, comment on fait aujourd'hui? Comment on la plie? Est-ce qu'on fait un signe, là?
Ah oui, alors, vous êtes très. J'arrive dans
non,
un hôtel à l'île Maurice.
Je suis incapable de plier une serviette, de toute façon.
On plie sa serviette le plus simplement possible. Si elle est carrée, vous faites un joli carré. Si elle est rectangle, vous savez, vous la pliez en deux, comme ça, c'est chouette. Alors, est-ce que justement, c'est dans l'assiette ou à côté de l'assiette, eh bien, il y a deux réponses, mon capitaine.
Ça va.
Si c'est un déjeuner, vous mettrez la serviette dans l'assiette.
D'accord.
Et si c'est un dîner, à gauche.
Ah,
et si vous voulez savoir pourquoi,
bah oui.
C'est parce que traditionnellement, le soir, on servait du potage. Le potage est un des rares plats qui est servi avant que les invités ne passent à table.
Comme le verre d'eau.
Comme le verre d'eau, pour qu'il soit à température.
Comme s'ils doivent mettre les comprimés dans la soupe.
Voilà. Et donc, vous mettrez on ne pouvait pas mettre la serviette dans le potage.
D'accord.
Bon, c'est génial de comprendre
ces
choses-là.
Oui, c'est ça. Quand on comprend, on devient vite beaucoup plus poli.
On devient
finalement
un peu accro, bonne manière.
C'est génial. Alors là, on a vu pour la table comment on l'adresse. Mais disons qu'on est invité à dîner. Alors j'imagine évidemment, on ne vient pas les mains vides, mais on apporte une bouteille de vin, c'est bien. Mais moi j'ai toujours entendu dire qu'il fallait faire livrer les choses avant.
Alors malheureusement, on arrive normalement les mains vides.
Bah, oui.
La tradition veut qu'on n'offre jamais de cadeaux quand on est invité.
Et pourquoi?
Vous le saviez, Julien?
Oui, moi je le savais parce que...
C'est
moi,
pour ça que vous
n'êtes
toujours avec rien à la maison.
C'est pour
moi,
ça que
juste vous êtes irradie.
Mais non, mais pas du tout, j'ai les mains vides parce que c'est ça qui est très poli.
Voilà.
Pourquoi? Parce que alors, normalement, moi, on m'a dit que ça gênait la maîtresse de maison. Un bouquet de fleurs, ça la gêne.
Alors, si vous offrez des fleurs,
moi,
vous les faire livrer. Parce que... Trois personnes qui arrivent avec trois bouquets, vous vous transformez en fleuriste, vous retrouvez vos invités au moment du dessert, le temps de trouver des vases. Donc on peut faire livrer.
Avant ou après?
Peu importe. Alors moi je dis toujours qu'il faut le faire après, comme ça c'est un gros bouquet si c'était très sympa.
Ah ouais,
bouquet,
c'est ça. Il a des bonnes manières mais il est malin. Hein.
Là je blague, mais c'est avant ou après.
D'accord.
En revanche, si jamais vous apportez du champagne
ou
du vin rosé l'été, il ne faut jamais apporter la bouteille fraîche.
Ah bon?
Parce que ça voudrait dire on va la boire maintenant.
Ah.
Et si jamais vous apportez gentiment, Julia, une bouteille de champagne fraîche, que moi je reçois 10 personnes, que pour des raisons X ou Y, j'ai pas décidé de mettre de champagne. Je suis dans l'embarras parce que je vais avoir une bouteille pour mes 10 invités.
Mais bien
alors
sûr.
Que j'aurais tout prévu à
voilà, on en apporte deux fraîches.
Exactement.
C'est au moins, c'est la classe.
C'est pareil. Normalement, on ne fait pas de cadeaux du tout, du tout, du tout. Je sais que c'est compliqué, mais...
Moi, j'aurais l'impression d'être mal élevée, quoi.
Alors moi, quand je le fais, parce que je le fais souvent, je place cette petite rubrique au moment du dîner.
Voilà, vous avez l'armoire à dindes, quoi. Voilà.
Et pourquoi on n'apporte pas de cadeaux? Parce que ce qui ne représente rien pour moi, par exemple, un cadeau, je dis n'importe quoi, hein, à 30 euros, c'est rien pour moi, mais ceux qui nous reçoivent, on ne sait pas. Donc, ils se disent, oh là là, il m'a mis une pression quand il est venu dîner à la maison ou déjeuner, il m'a apporté un cadeau de telle valeur. Et on ne doit jamais mettre l'autre dans une situation de stress, entre guillemets, ou en difficulté.
Donc, pour un anniversaire, si tout le monde amène un cadeau...
Chez moi, vous venez avec un bouquet de fleurs.
Ouvre... Hein. Non, mais on n'en ouvre aucun et on les ouvre plus tard.
Alors, les anniversaires, c'est différent, c'est ce que j'allais dire. Les
ça fêtes, peut être gênant aussi. Hein.
C'est un peu gênant, mais les anniversaires, les fêtes familiales, vous voyez, c'est on n'apporte rien pour un dîner. Si on est en famille ou si c'est Noël, on peut se répartir aussi. Il faut assouplir tous ces codes par rapport au contexte aussi.
Dites-moi, est-ce qu'il faut vraiment arriver à l'heure où vous arrivez toujours un peu en retard, non? Le petit quart d'heure, moi j'ai toujours entendu dire le petit quart d'heure, c'est bien. C'est...
Alors Julia, ça s'appelle le quart d'heure mondain.
Oui, bah voilà. Voilà. Elle connaît tout, hein, j'ai l'impression.
Ouais, bonne élève. On n'arrive jamais à l'heure, on arrive toujours. Alors je vais même vous donner une petite astuce. Quand on est invité à dîner à 20h30, on arrive un quart d'heure après pour laisser à ceux qui reçoivent le temps de se changer, la petite tâche qui arrive au dernier moment, l'invité qui se décommande, il faut enlever un couvert.
Bah autrement, ça stresse.
Exactement. Donc, il ne faut pas qu'on soit stressé. Donc, à 20h, on arrive à partir de un quart d'heure après. Et ça veut dire que ce sera un dîner ou un déjeuner assis. Si, en revanche, vous êtes invité à partir de 20h30, ça veut dire que là, c'est quelque chose qui sera debout. Ou un cocktail, ou un apéritif dînatoire, donc debout. Donc, on n'attendra pas que vous soyez arrivé pour commencer, entre guillemets, la soirée.
Est-ce qu'on fait encore des plans de table quand on reçoit les gens? Moi, je parlais de mon mariage tout à l'heure en plaisantant, mais c'était une grande fête, hein, ça arrive une fois dans la vie. On va dire, mais si j'invite, bon, pour le coup, pas forcément la famille, mais j'ose pas, mon patron, mon collègue, alors, un bon dîner où il y a quand même un peu de monde, on place les gens?
Moi, je conseille toujours, la tradition veut qu'on fasse un plan de table. Ouais. Les règles de celui qui si vous êtes la femme la plus âgée, ou si vous venez pour la première fois, vous serez à ma droite. Votre mari, si vous en avez un, ou votre compagne, sera à la gauche de la personne qui reçoit avec moi. On mettra toujours le prêtre, lui, toujours à la droite de la maîtresse de maison, si
le
jamais prêtre. Vous inviterez un prêtre.
Ouais, d'accord, mais ça, c'est bon, moins courant.
Non, mais bon, un prêtre une personne de n'importe quelle église.
Ouais.
Voilà. Donc là, vous les recevez chez vous. Le plus jeune, normalement, est le plus loin.
Mais bien sûr.
Moi, je trouve que c'est devenu obsolète, parce que si jamais la magistrate de 70 ans, et qu'il y a un jeune étudiant avocat de 30 ans, mettez-les pas très loin,
bah oui,
parce que votre dîner doit être vivant. Il n'y a rien de pire que les dîners où il ne se passe rien. En revanche, un plan de table, quel qu'il soit, à mon avis, est nécessaire, parce que vous avez vu, quand il n'y en a pas, on met un quart d'heure à se placer, bah mets-toi là, ah bah non, pas là. En plus, vous vous retrouvez souvent à côté de votre moitié, alors que c'est l'occasion de justement rencontrer d'autres personnes.
Mais il paraît qu'il ne faut pas séparer les moitiés trop tôt. C'est les gens qui reçoivent.
Pendant la période des fiançailles et un an après le mariage.
Ah, c'est ça. Bon. Vous connaissez même cette petite règle-là.
Mais oui, je connais tout.
Non, mais il y a juste un truc que je ne connais pas bien. Moi, c'est que j'adore ne pas rester trop longtemps au dîner et m'échapper. Comment on fait pour bien s'échapper d'un dîner?
Alors, nous avons un point commun.
Il faut courir vite.
Alors, je dis ça, vous nous avez fait le coup d'ailleurs. Oui. Je suis partie avant tout le monde, comme
c'est
d'habitude.
Ça. Alors, moi, je pars toujours avant tout le monde. C'est la réputation que j'ai aussi. Je préviens en arrivant que j'ai forcément un avion très tôt le lendemain matin.
Ouais, moi aussi, je mens tout le temps.
Voilà, ou que vous vous levez tôt.
Ce
et surtout quand vous partez le premier. On attend quand même de sortir de table.
Oui, ah bah oui. La dernière fois, elle est partie à l'entrée, j'ai pas compris.
Et blague à part, on ne prévient pas ceux, on dit pas au revoir à tout le monde parce que sinon, ça fait partir un minibus. Il y a
d'accord.
toujours celui qui attend que le premier parte.
Alors, on va voir ensemble encore deux, trois petits moments délicats qu'on a tous pu vivre dans un dîner. Jérémy, il arrive qu'on soit invité. Enfin, moi, ça m'arrive très souvent. Hein. Je suis très, très, très maladroite et je vais renverser tout d'un coup quelque chose à table. Un verre de vin, ça m'est arrivé honnêtement 35 fois.
Mais c'est affreux.
Je ne sais jamais quoi faire. Je sais pas. J'aurais envie de prendre la nappe, de partir au pressing. Je sais pas.
Ça, c'est le moment qui. Un moment de solitude horrible pour celui à qui ça arrive ou celle à qui ça arrive. Et chacun y va de sa petite. J'ai une combine de grand-mère. Il faut mettre du sel, de l'eau pétillante sur du vin rouge, on met du vin blanc.
Moi, j'ai envie de me cacher sous la table. Surtout.
Alors, c'est aussi une solution.
C'est ça.
Surtout, il faut laisser la personne qui vous reçoit gérer cet incident. Ouais. Et vous qui recevez, vous allez avoir prévu au début de votre repas, qu'il soit un déjeuner ou un dîner, une serviette de table du même service. Et comme ça, vous allez dresser cette serviette sur la tâche.
Et va cacher la tâche.
Et ça va cacher et vous gérerez ça après. Et surtout, n'en faites pas, vous qui recevez, une espèce de moment de drame, de gênant. Parce que si jamais cette nappe, vous y teniez comme la prunelle de vos yeux ou, comme certains sont indélicats, vous donne quasiment le prix de la nappe, eh bien, il ne fallait pas la sortir. Vous la laissez dans votre placard si jamais c'était un objet qu'il ne fallait pas abîmer. Et puis, vous qui avez commis cette...
Sur une
nappe, vous laissez quand même faire là, ceux qui vous reçoivent. Si c'est sur le vêtement de votre voisin, parce que ça peut arriver, une cuillère de sauce qui... Hop, c'est arrivé à tout le monde. Eh bien, là, vous êtes ennuyé, mais on n'en fait pas non plus un sujet. Mmh. Et vous proposerez, si vous ne connaissez pas très très bien la personne qui est à côté de vous, de prendre le teinturier. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est, mais on n'y va pas de son truc, on ne se lève pas à table et ça ne devient pas l'incident qui dramatique.
En fait, j'ai l'impression que pour être, avoir de bonnes manières, il ne faut pas trop faire remarquer à l'autre des choses un peu gênantes. Par exemple, j'ai toujours entendu dire que quand quelqu'un éternuait, il ne fallait pas lui dire quoi.
Voilà, si j'éternue, tout le monde va dire à tes souhaits. Eh bien non, c'est celui qui éternue, qui va s'excuser d'éternuer, parce que dire à quelqu'un à tes souhaits, c'est faire remarquer que la personne est malade.
Alors, Jérémy, il arrive qu'on soit invité et que malheureusement, ce qui nous est servi à table, on n'aime pas du tout. Ouais. Pas allergique, mais vraiment, on n'aime pas.
Ou alors qu'on soit au régime.
Voilà, comment on gère ça?
Alors, il y a deux questions. Si on est au régime et que c'est vraiment quelque chose de compliqué, on n'impose pas son régime à tout le monde. Les personnes qui vous reçoivent, souvent, ont pris du temps, dépensé de l'argent, se sont donné du mal. Pour certains, recevoir, c'est pas quelque chose de simple. Il y en a qui reçoivent tous les 3 jours et d'autres qui reçoivent tous les 3 mois. Ils y pensent depuis déjà 15 jours. Donc, on n'impose pas son régime.
Si on est végétarien ?
Si on est végétarien, c'est différent, mais souvent...
Les amis le savent. Quoi.
Ils le savent. Si jamais vous êtes végétarien, au moment de vous servir, parce qu'il n'y a qu'au restaurant qu'on sert à l'assiette. Chez soi, on sert des plats. Mmh. Donc, vous prendrez ou en très petite quantité ce que vous n'aimez pas ou ce que vous ne pouvez pas manger. Moi, je dis toujours aux miss, et ça m'a valu quelques réflexions, que si jamais on n'aime pas quelque chose, on ne dit pas à la personne « je n'aime pas ». La petite phrase qui sauve, c'est de dire qu'on est allergique et qu'il vaut mieux se priver d'un plat plutôt que de gâcher tout un dîner. Et c'est une façon un peu... C'est une pirouette pour s'en sortir.
Une petite dernière, Clément.
Et est-ce qu'on finit son assiette ou pas? Est-ce que c'est poli de finir ou au contraire, il faut en laisser un peu pour dire c'était très bon et j'ai eu assez?
Exact, c'est bien. On ne sauce, vous savez pourquoi on ne sauce pas? On ne sauce pas parce si jamais vous saucez trop et que vous rendez l'assiette aussi propre qu'elle sortait du lave-vaisselle, c'est-à-dire c'était tellement en petite quantité avant ou dégueu, percez-moi l'expression, je suis allé jusqu'à saucer. Si vous saucez avec votre fourchette et un morceau de pain, et on en laisse. Donc il faut toujours laisser une petite quantité.
11h30 sur Europe 1. Le meilleur de bienfaits pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Elles s'étaient rencontrées en musique, Glenn Madura et Elsa de retour.
Pardon, Madura.
Ça, c'est son cousin.
Moi, je ne l'ai pas rencontré, par contre. Hein. Bon, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être ce matin. On se pose ensemble une question fondamentale, et d'autant plus dans ce monde d'aujourd'hui qui va à 100 à l'heure. La question, la voici. C'est quoi une bonne rencontre? On en parle avec le philosophe Charles Pépin. Vous êtes également l'auteur du livre La Rencontre, une philosophie aux éditions Alary. Alors, on dit parfois qu'il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Quelle est la véritable part de chance dans une rencontre?
Ça, c'est vraiment une super, une question vraiment dure. Je pense qu'il y a deux excès à éviter. Le premier, c'est de penser que tout est lié au hasard et que du coup, on n'a rien à faire de spécial, on n'a pas à provoquer sa chance. Et le deuxième excès symétrique, c'est de vouloir abolir le hasard par une logique de cocher des cases sur un site de rencontre, d'anticipation, de prévision, de tableur Excel, de calcul, quoi. Mm-hmm. D'ailleurs, la pub de Mythique, au début, c'était quand même « Ayez l'amour sans le hasard ». Donc, il y avait ce projet d'abolir le hasard. Je pense que entre les deux, ce qu'il faut faire, c'est aller séduire le hasard, titiller le hasard, provoquer le hasard.
Justement, en
agissant déjà, en sortant des habitudes, en cassant un peu la frontière des bulles d'entre-soi, en acceptant de changer d'avis, et puis aussi en tombant un peu le masque. Mmh. C'est-à-dire qu'on est, on a souvent l'illusion que pour rencontrer quelqu'un, il faudrait montrer son meilleur profil, dérouler le storytelling habituel de ses succès, de sa surface sociale, de ses amis, Insta, ce que vous voulez. En fait, c'est un peu faux. En général, ça empêche la rencontre parce qu'il y a trop de réflexes, il y a trop d'habitudes. Et on s'aperçoit que si on tombe le masque le premier, en affichant quelque chose d'un peu plus complexe, pas nécessairement vulnérable, juste mélangé, quoi, on autorise l'autre à faire de même. Et c'est souvent comme ça qu'une belle rencontre a lieu.
Vous avez dit Mythique, il a bondi, Clément Lanoux. Mais vous
voulez dire quelque chose? Rencontre, j'avais une question. J'ai rencontré 3 fois ma compagne, en fait, à des moments différents. Dans la rue.
Rien
dans la rue,
Mythique,
on n'habitait pas le même quartier, choses comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des rencontres qui doivent vraiment se faire?
Alors,
c'est une consultation qui vous demande.
J'imagine que je suis pas le seul à avoir vécu des choses comme ça. Souvent, on ne devait que se rencontrer.
Je crois que vous êtes avec une femme qui est psychanalyste. Elle vous expliquera que la répétition indique quelque chose qu'il faut déchiffrer. Donc, c'est vrai qu'une répétition, elle a souvent du sens. Oui. Après, elle n'a pas nécessairement un sens qui est un destin qui tombe du ciel pour pour vous éclairer, oui. Mais peut-être elle a le sens que vous lui donnerez. En tout cas, ce qu'on peut aussi dire, c'est que parfois, il faut juste être disponible à la chose qui arrive. Alors quand elle arrive plusieurs fois, on serait vraiment particulièrement indisponible de ne pas savoir la saisir. Mais c'est aussi l'autre réponse à votre question de tout à l'heure, comment on fait ? J'ai dit action, j'ai dit vulnérabilité au fond, et j'ajoute disponibilité. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que souvent, on vise un objectif. On veut rencontrer tel type de personne, on va dans tel endroit pour rencontrer tel type de personne. Et donc, on voudrait atteindre quelque chose qu'on a visualisé, qu'on sait représenter. Et c'est normal. Mais le problème, c'est que souvent, c'est l'imprévu qu'on va rencontrer. Donc, il faut réussir mentalement à viser quelque chose qu'on attend, mais être capable en même temps d'accueillir l'inattendu. Et ça, ça se travaille en écoutant de la musique, en regardant des œuvres d'art, en sortant de chez soi. Et cette disponibilité, en fait, elle s'apprend. Et dans mon livre, je donne un peu un chemin pour apprendre cette disponibilité.
Oui, c'est ça, parce qu'il faut se montrer, si je comprends bien Charles Pépin, suffisamment disponible pour la rencontre. Mais j'imagine, à contrario, pas trop, parce que ça fait peur, les gens qui veulent tellement rencontrer les autres.
Vous avez raison. En fait, si vous voulez, c'est normal d'être aussi en partie non disponible et d'avoir une attente précise. Par exemple, si vous êtes une femme, j'invente, vous voulez rencontrer un homme, je sais pas, plus âgé, qui a déjà des enfants parce que vous voulez plus d'enfants, vous avez le droit d'avoir cette attente. Le problème, c'est que la vraie vie va souvent vous présenter quelqu'un d'autre avec qui vous serez peut-être très heureuse. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable de dire, voilà, j'ai une attente et que je la connais, et c'est grâce à ça que je vais sortir de chez moi, que je vais mettre en œuvre des décisions.
Elle permet juste de se mettre en mouvement, on va dire, c'est ça.
Et cette mise en mouvement, elle est salutaire. Et là, il ne faut pas être dans le zen ou la disponibilité. Pour se mettre en mouvement, il faut avoir une idée fixe, il faut avoir une target, il faut avoir de la volonté. Le problème, c'est qu'après, et j'avais cherché un concept dans mon livre pour dire ça, il faut que cette volonté se détende, cette volonté se relâche et devienne une disponibilité. Et c'est dans la synthèse de ces deux attitudes, un volontarisme un peu classique et un relâchement, une disponibilité qui, à mon avis, se joue la possibilité de rencontrer plus de monde.
Est-ce qu'il faut être forcément très optimiste pour faire une belle rencontre, avoir confiance en l'avenir ? Parce que là, tout ce que vous décrivez, ça nous fait rêver. On se dit, ok, je vais me mettre disponible, je vais me mettre en mouvement. Mais est-ce que si je suis au fond du trou et que j'essaye, malgré tout, on dit qu'on a la lumière, attire la lumière, vous voyez ce que je veux dire ?
C'est très marrant comme question, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain excès d'une psychologie positive. Tout le monde doit se montrer heureux. Il y a un truc que je trouve horrible, c'est les gens qui disent tu dois te scotcher un sourire sur la tête le matin.
Thérapie du bonheur.
Pas du tout, en fait, c'est n'importe quoi. C'est déprimant, la vie, c'est pas ça. C'est du déni de la complexité de la vie. Il y a plein de gens qui sont attirants parce qu'ils ont une lucidité par rapport au fait que ça va pas. Ils ont une beauté dans la reconnaissance de leurs limites. Moi, en général, les gens qui me plaisent, c'est plutôt des gens dont je sens une faille et qui se disent ouais, bon, bah voilà, je suis pas en train de mentir, j'ai pas tout réussi, je suis pas parfait.
Il y a des grognons attirants.
Mais, exactement. Et puis parfois, vous savez, le pessimisme est assez séduisant. Un pessimisme souriant, oui. Un pessimisme amusé. C'est mieux que l'auto-bourrage de crâne d'une certaine psychologie positive qui veut faire comme si tout allait bien. Alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ne va pas bien.
Exactement. Alors, je voudrais qu'on revienne. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Oui. Enfin voilà, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de gens sur ces applications. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut faire de bonnes rencontres?
On a des cas autour de nous. Moi, je connais des gens qui s'aiment et qui s'adorent.
Bien sûr. Ouais. En fait, ce sont des outils. Et ces outils, tout dépend de l'attitude. Soit, par exemple, vous voulez tout contrôler, tout maîtriser et poster un selfie que vous avez travaillé pendant des heures et ne faire que ça. Dans ce cas-là, évidemment, il n'y aura pas beaucoup de belles rencontres. Mais vous pouvez, avec les mêmes outils, montrer des choses de vous plus honnêtes. D'ailleurs, vous savez, il y a une mode maintenant sur Instagram que j'ai commenté d'ailleurs dans Madame Figaro qui sort là. C'est des femmes qui mettent en...
Nature.
Que des parties de leur corps.
Ah.
Des gros plans sur des ongles, des gros plans sur un sein.
Ça vous aimez bien ?
Je trouve ça très intéressant. Ouais. C'est moins narcissique et c'est plus intéressant. Il y a plus de décision. Il y a plus un choix sur ce que je mets en avant de moi.
Vous mettriez quelle partie de vous, Julia ? Je ne sais pas. Votre nez, ça dépend
qui je veux rencontrer, si c'est un ami ou un...
Mais ça peut être l'épaule, ça peut être un tatouage. Et c'est intéressant. Et en fait, ces outils, on peut les utiliser de plein de manières différentes. Et par exemple, sur un site de rencontre, au lieu d'avoir une vision très précise de qui on veut rencontrer et se décrire très précisément par rapport à ses attentes, on peut être volontairement un peu plus elliptique, un peu plus vague, un peu plus joueur. Tout ça pourquoi ? Pour recréer les conditions d'une rencontre heureuse du hasard, en fait. Et en fait, tout dépend du rapport qu'on a avec ce hasard. Il faut se dire, le hasard existe, mais j'ai quand même des choses à faire pour aller un peu le chercher, quoi, le provoquer.
Clément, pour vous, je vous mettrai la barbe.
Très bien,
conseil, elle est soyeuse, elle est pas mal.
J'imagine tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, j'ai rendez-vous avec un avant-bras, j'ai un mollet demain à 14h, je ne sais pas encore.
Charles Pépin, est-ce que faire confiance à nos premières impressions, c'est important, parce qu'on dit souvent que la première impression est la bonne. Quand on fait une rencontre, ça marche aussi ou pas?
Non. Vous savez, il y a plein d'exemples contraires. Moi, j'aime pas trop l'idée qu'il faut comme ça s'écouter, parce que comme si on avait une intuition sûre de la première fois, comme si on pouvait vraiment faire confiance à son premier feeling. L'expérience de la vie montre qu'il y a des amis, par exemple, qui se sont croisés au lycée, 5 ans, 7 ans, ou des collègues de bureau qui se sont croisés, ils ne se sont pas trop remarqués, et puis un jour, la rencontre a lieu. Alors qu'ils se sont longtemps croisés. Donc il n'y a pas nécessairement un coup de foudre au début. Et c'est bien, c'est une revanche de la vie. Parfois, on découvre quelqu'un. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'ils se croisent longtemps? Et pourquoi, à un moment, la rencontre a lieu? J'explique ça dans mon livre. Parce qu'à un moment, il y a un qui tombe le masque. Un qui arrête de jouer. Arrête de présenter le profil qu'il a travaillé, choisi. Et qui, en fait, exprime quelque chose d'un peu complexe, d'un peu surprenant. Une forme de vulnérabilité, mais pas seulement. Ça peut être aussi une forme d'arrogance, mais imprévue. Et c'est cette surprise, en fait, qui crée la rencontre. Donc, si on veut tout maîtriser, tout contrôler, tout anticiper, en fait, on ferme les vannes de la rencontre possible.
Et comment on fait, Charles Pépin, si on fait une première rencontre et qu'elle se passe mal? On insiste ou on passe notre chemin?
Avec la même personne, vous voulez dire? Alors, dans mon livre, je propose un critère qui se réfère au philosophe allemand Hegel, qui dit, voilà, il faut arrêter avec le romantisme de l'intériorité. Ce qui compte, c'est la réalité de ce qui est produit par une rencontre. Donc, à un moment, il y a des rencontres toxiques. Si clairement, suite à cette rencontre, vous vous fermez de votre groupe d'amis, votre univers se rétrécit, votre joie se change en tristesse, alors je crois qu'il ne faut pas insister.
Pas forcément.
Il faut être très très lucide. Et pour moi, une rencontre se reconnaît à ce qu'elle produit effectivement dans le réel. Et du coup, qu'est-ce qu'une bonne rencontre, pour répondre à votre question? C'est quand ça produit objectivement un agrandissement de mon rapport au monde. Je vois plus de choses, plus de gens, j'ai plus d'émotions, je m'intéresse à plus de films, à plus de musique, à plus de voyages, à plus de paysages. Et ça, c'est objectif. Et Hegel disait que le danger d'un certain romantisme, c'est de dire « mais je sens l'amour, je sens que cette personne m'aime », sauf qu'objectivement, tout est rétréci, tout est diminué, tout est souffrance. Oui. Et donc je pense qu'il faut être assez lucide et simplement ouvrir les yeux. Qu'est-ce que cette rencontre a fait de moi?
Alors est-ce qu'il y a un âge où l'on fait des rencontres qui nous marquent davantage? Je pense notamment à l'adolescence.
Oui, c'est vrai. Et il y a une raison à ça, c'est qu'on a plus de temps. Et en fait, la meilleure façon de rencontrer quelqu'un, c'est de ne pas être pressé et de savoir perdre du temps avec cette personne.
C'est toujours vrai cette que histoire souvent... de disponibilité,
ouais,
en fait.
C'est vrai, mais c'est vrai que du coup, il faudrait réussir à recréer ça adulte dans une vie active, ce qui est dur. Regardez le nombre de fois, je ne sais pas, vous dînez avec des amis, ok, il est un peu tard, mais vous devez vous lever tôt, et puis vous ne connaissez pas tout le monde, et puis il propose de prendre un verre, et puis finalement, non, vous n'y allez pas parce que vous manquez de temps, vous manquez de cette disponibilité. Il faudrait être capable de recréer ces bulles comme ça de disponibilité qu'on a à dos quand on traîne avec quelqu'un et que c'est là qu'on le rencontre, quoi, quand on a du temps à perdre. Et en fait, cette espèce de hâte, cette espèce de pression, quoi, d'injonction aussi, c'est ce qui nous empêche parfois d'avoir le temps de la rencontre. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'à cet âge-là, on est moins gonflé de son statut social et de son statut professionnel. Je trouve qu'il y a un début de rencontre, souvent, c'est « et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Alors c'est à la fois très mauvais et très bon. Très mauvais parce qu'on commence par réduire l'autre à une fonction socio-professionnelle. Très bon parce que mieux vaut un mauvais début que pas de début du tout. Et donc je pense
mais c'est sûr
faut
que
commencer.
Quand on a 16 ans, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça va vite.
Ben voilà. Et surtout, on commence pas comme ça.
Exactement. Docteur Lemoine, vous êtes notre invité pour parler dans quelques instants de la sieste. Mais j'ai l'impression que vous avez une question à poser à notre philosophe.
Oui, Charles, les moments où on a du temps, c'est l'adolescence et la retraite.
Et oui, c'est vrai.
Est-ce que vous pensez que les retraités font plus de rencontres?
Mais bien sûr, ça a été prouvé par des études récentes. Et je pense que il y a un joli livre de Pascal Bruckner là-dessus qui s'appelle Une brève éternité, philosophie de la longévité, où il raconte très joliment qu'on a 20 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 20 ans, de nos 20 ans de vie supplémentaire?
Ah, génial.
Et du coup, on retrouve une forme de loisir, comme ça, de disponibilité. Et c'est très beau. C'est d'ailleurs une manière aussi de bien vivre cet âge. Mais de toute façon, on peut faire des rencontres à tout âge. C'est une question d'attitude, quoi.
Même aussi, quand on est très âgé, qu'on est en institution, placé en EHPAD, il y a encore des possibilités. Je veux dire, non, mais c'est pour être évidemment optimiste.
Moins, je vous le concède.
Mais parfois, il y a des histoires d'amitié incroyables.
Il y a beaucoup très âgées, de belles histoires d'amour maintenant de personnes très âgées. C'est la chance nouvelle que nous offre ce monde. Et puis aussi, peut-être, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait tellement de bien. En fait, la curiosité pour le monde de l'autre, Ça nous délivre un peu de l'obsession du soi. Et on est quand même, il faut le reconnaître, très auto-centré, très individualiste. Si je vous demande de faire un exercice mental sur une journée, de regarder toutes vos pensées, vous allez voir que la plupart de vos pensées, elles sont occupées par vous-même. Et donc, dans une rencontre, en fait, ça fait tellement de bien. Je me dis soudain, mais il y a quelqu'un qui m'intéresse plus que moi. Bah,
c'est,
ça fait
c'est
du bien.
C'est inédit. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire en conclusion, Charles Pépin, que bah, finalement, les humains, ils sont faits pour ça, ils sont programmés pour faire des rencontres et que bah, si on est tout seul tout le temps, on n'est plus humain, on dépérit, quoi, vraiment.
Vous avez entièrement raison, et c'est pour des raisons scientifiquement prouvées, notamment ce qu'on appelle la néoténie, c'est-à-dire la prématuration de la naissance. Les cellules de l'embryon auraient besoin de 18 mois pour être arrivées à terre, mais comme vous le savez, au bout de 9 mois, on est projeté sur Terre. Eh bien, comment on va se terminer, se prolonger, se parachever ? Eh bien, par les rencontres et par les bonnes rencontres. C'est pour ça, évidemment, que les premières années de l'existence sont décisives. Parce que soit elles nous mettent déjà dans la grâce des belles rencontres qui nous sécurisent et nous libèrent, soit elles créent un problème qui appellera une compensation plus tard. Mais dans tous les cas, il ne sera jamais trop tard pour compenser le déficit des premiers liens d'attachement et pour faire les belles rencontres qui sont quand même capables de sauver une vie.
11h30 sur Europe 1. Le meilleur de bienfaits pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Voilà, on va donc accueillir notre deuxième invité aujourd'hui dans ce studio. Il nous dit que la prévention devrait devenir notre philosophie à tous. C'est le docteur Christian Recchia, bonjour.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1.
Merci. Merci, vous êtes président du pôle prévention à l'Académie de télémédecine et de e-santé. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage « Les 4S pour rééquilibrer sa vie » aux éditions Humaine Science. Alors docteur Recchia, on sait que la médecine actuelle en France, elle réalise des prouesses. Mais selon vous, là où ça cloche, c'est que les médecins aujourd'hui se contentent de gérer finalement les maladies, et nous-mêmes, on va uniquement les voir, les médecins, quand on souffre de quelque chose. Pourquoi c'est pas l'idéal de fonctionner comme ça ?
Alors en fait, la médecine en France, depuis 70 ans, a fait des progrès exceptionnels, avec des soins qui ont réussi à guérir les patients d'une façon remarquable, donc il faut honorer cette médecine, mais elle n'est pas suffisante. Ce n'est pas possible de continuer dans cette situation. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, il y a à peine 900 médecins scolaires. Alors que j'ai 65 ans concrètement, lorsque j'avais 5 ans, il y en avait 12 000.
Ah oui.
Il y avait 15 000 infirmières. Chaque médecin était en mesure de dire à papa et à maman, le petit Arthur a un problème de dos, il a un problème d'audition, il a un problème, il doit mettre des lunettes. Nous constatons, aujourd'hui il est dans l'adolescence, il commence à avoir des pieds plats. Donc concrètement l'idée c'est qu'il y avait une continuité de l'observation familiale du médecin, et le médecin connaissait les familles. Le médecin généraliste à l'époque était la clé de voûte du système de santé. Mmh. Il y avait une cohérence, la vaccination était une cohésion globale. Donc ce que je veux simplement signaler, c'est qu'au fond, tout ça est une question de bon sens. Tout est une question de bon sens parce que tout existe en prévention, mais personne ne se responsabilise.
Docteur, ce livre, c'est une façon de montrer que l'on peut éviter un tas de maladies grâce à la prévention. Mais de quelle maladie, par exemple, vous parlez ?
Alors évidemment, si vous appliquez cette règle humblement, lorsque j'enseigne à HEC, à Centrale Paris ou à Normal Sup, concrètement, je dis à mes élèves, concrètement, si vous appliquez savoir manger sans faire de régime, savoir manger équilibré en se faisant plaisir, ce que j'explique dans ce livre. Savoir faire du sport à raison de 4-5 heures par semaine. Mais faire du sport, c'est pas faire de la compétition, c'est se faire plaisir en groupe, entre amis, en couple, en famille.
Quoi d'autre ?
Savoir bien dormir, savoir gérer son sommeil. Le sommeil est réparateur, il est constructeur de neurones. Et savoir ensuite gérer son stress. Le stress est plus toxique que le gras, le sucre, l'alcool et le tabac réunis.
Et il faut bien se rendre compte. On peut éviter quoi comme maladie grâce à ça ?
Nous pouvons éviter, et enfin je réponds à votre question, nous pouvons éviter donc l'obésité et donc les maladies vasculaires, nous pouvons éviter les diabètes, nous pouvons éviter un grand nombre de cancers, nous pouvons éviter des maladies dégénératives. Le message qu'il faut passer à nos auditeurs, c'est qu'au-delà de 55 ans, on continue à se réparer. Et au-delà de 55 ans, si vous appliquez tout cela en faisant du sport, vous ajoutez de la vie aux années et vous ajoutez de la réparation tissulaire. À 90 ans, on continue à sculpter ses neurones à partir du moment où vous avez ces principes. Et ce n'est pas un principe, je dirais, d'un gourou ou d'une famille de pensée. C'est un principe fondamental. Tout ça est fondé sur mes enseignements à la faculté. C'est de la physiologie. C'est connu depuis 70 ans. Mais tout existe. Mais rien n'est repris correctement.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les 4 S? Alors, vous avez un peu évoqué.
Oui, donc c'est d'abord gérer sa sphère alimentaire.
Sphère alimentaire.
De la terre à la fourchette, de la fourchette aux neurones, il faut se faire plaisir en mangeant.
Deuxième
ensuite,
S.
Il faut bien dormir. Parce
sommeil.
Que, s'activer dans la journée, il faut bien se réparer la nuit. La nuit répare les neurones. Et ceux qui ne dorment mal sont des personnes qui ont souvent des maladies dégénératives au niveau neuronal. Gérer son stress.
Stress.
Ça, c'est capital.
Vous avez dit, c'est un poison.
C'est capital. Ouais. Il faut faire du yoga, écouter de la musique, lire, se détendre. Et puis ensuite, faire du sport. Et je fais 10 heures de sport par semaine depuis maintenant 50 ans ou 60 ans.
Et vous n'êtes pas stressé?
Eh bien, je suis moins stressé. Je travaille énormément, mais je suis beaucoup moins stressé. Et effectivement, sur le plan pratique, la question de madame, c'est que nous sommes aujourd'hui vus comme un corps physique. Mmh. Pour moi, pour nous, pour mes maîtres de l'académie qui m'ont, je dirais, formé, forgé, comme Alain Larcan, qui était le président de l'Académie de médecine, eh bien, concrètement, nous sommes un corps physique. Mais bien plus que ça. Nous sommes un verbe être, il faut être mieux, il faut être verbe être plutôt que verbe avoir, oui. Être verbe donner plutôt que prendre. Partant, ça vous fait sourire, mais il est évident
mais non, c'est
que
une
nous,
philosophie,
avons, nous avons le corps physique qui est arboré avec le corps mental, le corps émotionnel, le corps mnésique, le corps social, le corps projet, pour certains c'est le corps spirituel. Et le vrai problème, c'est que nous ne nourrissons plus du tout les corps que je viens de citer.
Oui.
On ne pense qu'à l'apparence et on ne pense pas finalement au corps mnésique, au corps émotionnel, au corps sensoriel. Et finalement, nous ne savons plus du tout nourrir ces corps. Et rien, je l'ai dit dans le livre, pour être un chef d'entreprise, il faut que ces 7 corps soient parfaitement équilibrés, alignés.
C'est l'équilibre.
Et on ne sait plus. Et qui éduque les enfants pour la nourriture de ces corps? Ce sont les parents, ce sont les émotions,
c'est
l'empathie, ce sont les échanges. Alors, bien sûr, c'est très loin d'une prévention connue, mais c'est un acte fondateur de penser cela.
On va détailler un peu justement ce programme des 4 S. Le premier S, c'est pour notre sphère alimentaire qu'il faut apprendre à maîtriser. Et vous écrivez que le simple fait de jardiner dans son potager, c'est déjà excellent pour la santé, déjà parce qu'on fait énormément d'exercices, c'est bien ça?
Eh oui. Mon merveilleux grand-père qui m'a appris à jardiner me montrait des choses simples, mais par le jardinage, d'abord on apprend l'humilité, on apprend la nature,
on apprend le temps long,
pousser
aussi,
les
hein.
choses, on apprend le temps long que j'évoque dans le livre, il ne faut pas se presser, et puis on apprend surtout à aller chercher des produits que la nature a réalisés. Et dans ces temps conflictuel, c'est bien de réapprendre cela. En plus, le jardinage, c'est une activité physique tranquille, qui détend comme le golf, j'en témoigne. Et concrètement, je dirais que chacun devrait avoir son jardin, même sur un balcon, un quart d'heure sur un balcon, avec des plantes tomates, avec des plantes courgettes, avec un olivier qu'on caresse,
des
avec
herbes
des roses,
aromatiques.
Des plantes aromatiques qu'il est absolument nécessaire d'avoir, même sur un balcon. Eh bien, ça, les plantes aromatiques permettent donc d'éviter le sel. Donc finalement, vous voyez, le jardin, c'est un moyen d'équilibrer les choses. Et je prendrai le jardin. C'est donc des végétaux. Des végétaux, vous mangez, quand vous mangez des végétaux, vous mangez du potassium, et le potassium permet d'excréter le sodium, et ça fait chuter la tension artérielle. Donc, vous voyez, manger des légumes, ça a du sens physiologique.
Et avoir un potager, par exemple, même un tout petit, comme vous le disiez, c'est peu connu, mais quand on va le cultiver, on a moins d'arthrose. Comment ça se fait? Comment c'est possible?
Alors, la conception est très simple. C'est qu'il y a 40 ou 50 ans, quand je n'étais encore pas médecin, je voyais pour la moindre entorse, les gens étaient emplâtrés pendant 6 semaines, et après avoir enlevé le plâtre, ils étaient encore plus malades. Aujourd'hui, on redynamise le plus tôt possible, on revascularise le plus tôt possible. Et le fait de revasculariser permet de réparer plus vite, permet de même éviter l'inflammation quand c'est bien fait. Et là, donc le jardin permet finalement d'empêcher les douleurs. C'est un échauffement comme les autres.
Et si on n'a pas de jardin et si on n'a pas de balcon, on peut aussi privilégier les fruits et légumes bio, j'imagine que c'est mieux, non?
Eh bien écoutez, quand on n'a pas de jardin, pas de balcon, on part marcher, plusieurs milliers de pas par jour.
Mais qu'est-ce qu'on mange?
Alors, et là, ensuite, que mange-t-on? Donc là, il faut apprendre à acheter. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est, dans un supermarché, il y a 200 000 références produits. Eh bien concrètement, il y a 80 produits natifs qui servent à nourrir toute la famille. Je reviens sur le jardin, une demi-seconde, permettez. 60 mètres carrés de jardin nourrit une famille de 4 personnes pour l'année pour 250 euros.
Ah oui, donc il n'y a pas besoin d'avoir...
Et je reviens à votre question. Eh bien, soyons très clairs, aujourd'hui, dans un supermarché, allez voir les produits natifs, les produits frais, et le fait est, monsieur, je dis à monsieur, apprenez à cuisiner. Aidez madame à cuisiner. Et la cuisine est un élément fondateur. Et quand on a appris à cuisiner, on sait acheter.
Très d'accord. Bien. Le second S, c'est pour maîtriser son sommeil. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi le sommeil, on le sait, c'est un pilier de notre santé, mais il se passe quoi la nuit qui est vraiment vital pour éviter les maladies?
J'aurais voulu, accordez-moi 30 secondes de plus pour préciser que les 1000 premiers jours d'une vie constituent l'architecture d'une vie et la sculpture des neurones. Accordez-moi le principe de dire qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes hyper stressés, que nous avons des parents veulent, qui laissent passer la télévision aux enfants jusqu'à 22 heures, et le train endocrinien, je suis endocrino, le train endocrinien passe à 20 heures pour un enfant, et quand le train endocrinien passe, l'enfant bâille, il a sommeil, mais sauf qu'il a la télé. Alors il continue, et là il y a une resécrétion de cortisol, un restress,
et il loupe
quand
le
l'enfant
train.
Il loupe le train, et quand il va au lit à 22 heures, il n'a pas sommeil. Donc l'enfant a perdu 2 heures de sommeil, et à la fin de la terminale, il a perdu des milliers d'heures de sommeil. Le problème commence là. Mmh. Ensuite, étant étudiant, on le sait, est un désastre. Mmh. Ensuite, vieillir. Vieillir, c'est 55 ans, on perd 1% d'appétit par an et on perd des minutes de sommeil considérables. Donc on a moins envie de dormir. Donc on se réveille plus souvent. Ben, ce n'est pas grave. Il faut apprendre à gérer son sommeil. C'est ce que j'explique. Et donc, quant à... Moi, je dors très peu, 4-5 heures par nuit, mais je fais des micro-siestes dans la journée. Mmh. Donc n'ayez crainte. Il y a toujours des façons de récupérer. Et quand on fait du sport, alors là, je peux vous dire que les jours où vous faites du sport, votre sommeil, vous l'avez sous la couette dès 21h30.
Est-ce qu'on peut parler du stress? Donc le troisième S, le stress, celui que vous redoutez temps et celui qui est très
qui est
délétère.
Pire que le tabac, l'alcool, enfin, vous avez dit
pire que tout, ça peut aller loin et provoquer des maladies, lesquelles?
J'ai toujours souvenir de ma première journée hospitalière avec le professeur Cabrol qui disait « Christian, vous avez fait une thèse sur les EPA-DHA qui réparent les neurones des enfants prématurés et sur les acides gras essentiels que je viens d'évoquer, qui permettent finalement de réparer les micro-vaisseaux, car vous savez que nous avons 7 km de gros vaisseaux, et à l'Institut du Cœur, et le professeur Ganschbach et Pavi et Le Prince, on a déterminé le fait qu'effectivement, nous avons 30 000 km de micro-vaisseaux. Ce qui est génial, c'est quand on fait du sport, ces micro-vaisseaux se multiplient. Les gros vaisseaux restent bouchés s'ils sont bouchés, mais vous créez un nouveau réseau. Mais ce qui est cataclysmique, c'est que si vous faites du sport pour créer un nouveau réseau, pour passer de 30 000 à 100 000, par exemple, 2 heures de sport par semaine, vous passez de 30 000 km à 60 000 en un an, ce qui est génial.
Ah oui.
Et en 10 ans, vous allez à 200 000 km. Mais le problème, c'est que si là-dessus vous avez le stress provoque des perturbations hormonales considérables, avec des effets orthosympathiques, qui finalement provoquent un laminage complet de ces micro-vaisseaux.
Il faut que ces vaisseaux,
leur arrive. Je vais donner l'image. Ouais. C'est qu'un micro-vaisseau, c'est une cellule, plus loin une autre cellule, et une prostacycline qui vient, c'est un vernis qui vient recouvrir ces cellules vasculaires. Et quand les globules rouges viennent s'écraser jusqu'au fin fond de votre pouce pour aller donner de l'oxygène, eh bien, on glisse sur les prostacyclines. Le problème, c'est qu'avec le stress, il n'y a plus de prostacycline et les globules rouges saignent et vous avez des micro-saignements et c'est une catastrophe.
Bon, on a compris. Donc le stress, on évite absolument chose, hein. Le stress et on fait du sport. Ça, j'ai compris. Mais à partir de quel âge, je dirais, il faut faire du sport de manière pas intensive?
Alors, je boucle par le stress. Le stress est non seulement toxique pour les vaisseaux, je viens de vous le dire, mais il est toxique pour le pancréas. Ouais. Il fait sécréter de l'insuline et provoque donc un diabète à long terme. Il provoque des maladies dégénératives gravissimes. Donc le stress est multi-toxique, multifocal. Ouais.
Donc le sport, on fait quoi?
Et donc là, le sport, alors là, soyons très clairs. J'ai un enfant de 9 ans, il fait 10 heures de sport par semaine.
Rien.
Et je ne le pousse pas. Il est très bien à l'école, Vittorio. Les enseignants me disent, Christian, ces enfants-là, depuis qu'ils font du sport, ont plus 3 points de moyenne générale. Ah oui. Le sport apprend l'humilité, le sport apprend l'effort, le sport apprend l'objectif.
Mais en France, donc, on ne valorise pas tellement le sport.
Mais voilà, mais en France, j'ai
on leur fait faire des mathématiques, ça c'est important. Mais
la
le sport...
France a un objectif majeur à changer. Il faudrait que les enfants... et des cours, je dirais, des matières principales le matin, et au minimum 2 heures par jour d'activité
tous les jours,
physique.
À l'anglo-saxonne, c'est comme
exactement.
Ça qu'ils font.
Tout et ensuite, pour nous adultes, pour nous adultes, eh bien, l'adulte, c'est très clair, sport le matin, minimum 5 heures par semaine. Alors, vous me dites, Rekia est toujours excessif. Non,
pas du tout.
C'est un minimum. Mais faire du sport, c'est pas faire de la compétition. C'est se détendre, c'est partir marcher. C'est faire venir en vélo, à vélo. Donc là, je dirais que toutes les solutions sont possibles. Et aujourd'hui, nous avons un encadrement.
Europe 1,
11h, 12h30.
Le meilleur de Bienfaits pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfaits pour vous, votre magazine dédié au bien-être, au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, on va parler tendances, ces bons plans, ces conseils qu'on met en avant pour vous faire du bien au quotidien. Et on a choisi pour vous le meilleur depuis le début de l'année avec tous nos chroniqueurs. Et ça va commencer, Julia, par les bienfaits du côté de la table.
Et oui, évidemment, comme chaque jour, il y aura la chronique gastronomie, l'art de bien manger avec Marion Sauveur et un mets plutôt automnal, même si on en trouve toujours en ce moment. Aujourd'hui, le Mont d'Or sera à l'honneur. Et on vous donnera aussi des astuces pour en profiter au mieux dans votre assiette. Et puis, une fois qu'on se sera bien fait plaisir avec le Mont d'Or, on aura besoin des conseils sportifs de notre coach Jean-Marc Delorme pour éliminer un peu. Il nous a concocté un programme de gainage d'abdos pour ceux qui abusent du fromage et pour les autres.
Ensuite, Julia, dans ce tour de table des tendances, Maud Ravier, notre spécialiste beauté, sera également avec nous. Elle va tout nous dire sur les techniques d'extension de cils. On finira toutes avec des yeux de biche aujourd'hui, je crois. Et pour finir, le docteur Oren Marco, alias le docteur Beauty, sur les réseaux sociaux, sera aussi en studio avec nous. Il va nous donner un vrai coup de peps ce midi, puisqu'il va nous expliquer quelles sont les dernières tendances esthétiques pour en finir avec les cernes.
Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances.
Et bien voilà, c'est parti pour la séquence tendance de cette émission. Il est midi 3, c'est pour ça que mon ventre gargouille. Donc comme tous les jours, place à la gastronomie pour ouvrir cette partie de l'émission. Je me tourne vers vous Marion Sauveur et on plonge dans la gourmandise avec vous aujourd'hui Marion. On vous a senti arriver, c'est moins qu'on puisse dire, comme une effluve boisée dans ce studio. Mmh. Qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui?
Un mont d'or qu'on appelle aussi le vacherin du Haut-Doubs. C'est le fromage vraiment convivial, hein, par excellence, dans sa jolie boîte en épicéa, à la pâte onctueuse et la croûte beige, voilà, plissée comme vous l'a montré.
Plissée comme moi ?
Mais non, mais non.
La peau du fromage, quoi, voilà.
Exactement. Alors, il n'est pas aussi gourmand qu'on pourrait le croire, puisqu'il affiche 300 calories pour 100 grammes.
Ça va.
C'est un peu moins que le comté, alors deux fois plus que le chèvre frais, voilà, bon. Il est aussi riche en calcium, en protéines ou encore en vitamine A. Et vous le connaissez dans sa boîte, que classiquement vous réchauffez au four, mais il existe à la coupe. Mmh. Et le Mont d'Or ne se mange pas seulement chaud, justement. D'ailleurs, je vous propose de le déguster, ah bah oui, comme ça, sur le plateau.
J'ai la chance, j'ai eu le morceau à la coupe directement sur mon bureau, donc on va couper des petits morceaux et puis on va goûter. Évidemment,
vous mangez sans pain,
mais on le trouve pas toute l'année, Marion. Par contre, hein, le Mont d'Or, expliquez-nous.
En fait, c'est le début de saison là, au mois de septembre. Il est vendu que depuis quelques jours, puisqu'il est fabriqué du 15 août au 15 mars, avec le lait cru de vache, vache montbéliarde et simmental. C'est très important, les deux seules races autorisé pour réaliser ce fromage par l'appellation d'origine protégée. C'est ce qui garantit que toutes les étapes de production sont réalisées dans la zone d'appellation, c'est donc le Haut-Doubs. Le fromage encore tout chaud est donc sanglé avec l'écorce d'épicéa qu'on voit sur le fromage à la coupe, c'est ça qui
Moi,
est intéressant.
Moi je mange même
justement.
L'écorce, je sais pas si c'est, ça se mange, mais
c'est du bois. C'est du bois.
Moi, j'aime bien le bois.
Et puis on le place ensuite 3 semaines en cave d'affinage sur lesquelles on trouve là aussi ces planches d'épicéa, l'épicéa et là, tout au long du processus de ce fromage, 21 jours minimum. Mmh. Il est ensuite installé dans la boîte en épicéa.
En épicéa, oui.
Que mange Mélanie.
Le petit odeur boisé,
exactement.
C'est ça. Mais ça veut dire qu'il y a une saison pour manger le Mont d'Or, vraiment?
Et oui, ça vient en fait de l'histoire. À l'époque, les paysans en fait, produisaient du lait pour la fromagerie qui était plus bas dans la vallée, puisque c'est à 700 mètres minimum qu'on produit du Mont d'Or. Et l'hiver, à cause du climat, ils ne pouvaient pas descendre leur lait pour fabriquer le comté. Et donc, ils fabriquaient avec le reste du lait l'hiver un petit fromage qu'ils gardaient pour eux. Et voilà comment est né ce fameux Mont d'Or. Et comme pour beaucoup de fromages, en fonction de ce que les vaches mangent, en ce moment elles sont en train de pâturer, eh ben, il y a un goût un peu plus ou moins parfumé avec des arômes fleuris ou marqués.
Là, elles ont bien nourri les vaches. Moi, je vous confirme, c'est délicieux, vraiment exceptionnel.
Alors, les premiers Mont d'Or n'ont pas le même goût que ceux de l'hiver. C'est ce que nous explique Henri Mamet. C'est le seul producteur fermier de Mont d'Or.
Ça va se voir sur la couleur des fromages. En fait, le fait de manger de l'herbe, il y a du bêta-carotène dans l'herbe qui va colorer les fromages de façon un petit peu orangée. Donc, les Monts d'Or du mois de septembre ont des belles pâtes jaunes-orangées. Alors que dans l'hiver, lorsqu'elles sont à l'étable et puis qu'elles mangent des fourrages conservés, donc du foin, eh bien, le lait va être un petit peu plus blanc. Donc, les fromages vont être différents. Je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, je ne crois pas. Parce que, en fait, pendant l'hiver, il y a aussi l'ambiance de cave qui va faire un travail. C'est-à-dire qu'à cette saison, le lait est très riche, très onctueux, mais les ambiances de cave sont nouvelles puisqu'on va ramener des nouveaux fromages dans les caves qui ont été vides tout l'été. Par contre, au bout de quelques mois, ces ambiances naturelles vont s'enrichir de levures, de moisissures, de bactéries, et l'affinage des fromages va être un petit peu plus intéressant.
Et est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le Mont d'Or, justement? Est-ce que vous avez une idée?
L'or, le... Bah non, c'est même pas vraiment doré, mais... Enfin, je sais pas, écoute, moi je me resserre en tout cas.
Mélanie, le régime, Mélanie.
Oui, le gainage, ça compte pas. Non, mais quand c'est à l'antenne, il n'y a pas de kilos sur la balance, j'ai remarqué.
Donc on multipliera tous les exercices de gainage par deux.
Voilà, c'est ça. Attention, moi, on a du boulot. Moi, je me resserre un petit morceau, en tout cas.
Alors en fait, ça s'appelle Mont d'Or parce qu'il est fabriqué dans une zone autour de cette montagne qui s'appelle le Mont d'Or. Toutes les communes sont en fait autour de cette montagne. Et on raconte même que le fromage a la forme des montagnes vallonnées, tout serré dans sa boîte, justement. Ce fameux plissé dont on parlait tout à l'heure.
Ce fameux plissé. Alors, comment on le cuisine?
Oui, parce que c'est ça qui est important. On veut des conseils pour refaire à la maison. Dites-nous.
Alors, on va changer un peu de la boîte chaude. Hein, sinon, vous mettez votre Mont d'Or tout
dans
chaud.
Le four, voilà.
Voilà, tout simplement un peu de vin, un peu d'ail, en fonction de ce que vous aimez. Je vais vous proposer des petites croquettes pour l'apéritif. Mmh. On va faire fondre le Mont d'Or sans la croûte très rapidement. Sinon, il va falloir filtrer à cause de la croûte avant de le mettre dans un bac à glaçons. Vous mettez dans le bac, vous mettez 30 minutes, il faut juste que ça se solidifie un petit peu. Et une fois que vous avez vos petits glaçons de Mont d'Or, vous passez dans la chapelure. Donc farine, œufs battus et chapelure. Là, vous pouvez vous amuser. Des noisettes émiettées.
C'est comme des petits chromesquis, là.
Mais
un
oui,
peu,
c'est ça,
ça.
Exactement.
Ça a l'air très bon, ça.
Graines de sésame, des petites herbes. Vous faites comme vous le sentez, comme vous aimez. Et puis, vous panez deux fois, surtout pour que ça tienne bien et que ce soit plus croustillant. Et hop, dans la friture.
Oh.
Et dès que c'est doré, vous sortez vos croquettes et là vous avez le croustillant à l'extérieur et le moelleux, voilà, du Mont d'Or.
Marion, vous en avez avec vous des croquettes?
Non, mais non, j'ai du Mont d'Or froid, regardez, mais il est délicieux comme ça à la coupe.
Il est très très bon comme ça, mais c'est vrai que ça donne envie. Vous allez le refaire, Mélanie?
Moi, c'est certain, Jean-Marc, si je mets de la panure et puis deux fois, elle a dit qu'il fallait panner deux fois, c'est combien d'abdos à la fin du coup?
Bah là, ça, on y passe la journée un peu quand même.
C'est ça. Aurène Marcou, j'ai vu que vous aviez pas vraiment goûté. Non, c'est pas pourquoi.
Non, parce que j'ai peur de Jean-Marc, en fait. il me surveille.
Et vous êtes très sportif, hein, Dr Beauty.
J'essaye pas autant que Jean-Marc.
Mais vous profitez quand même, vous mangez?
Bien sûr, mais j'élimine le lendemain
matin. Bon, vous inquiétez pas, nous on profite pour deux, pour trois, et pas de problème, très bien.
Je vous
termine
aide.
Vite fait ce Mont d'Or, moi je l'ai gardé autour de moi, autour de la table, mais vous qui nous écoutez désormais, vous avez tous les conseils en main pour vous régaler, reproduire tout ça chez vous. On vient très vite. En général, on dit après l'effort, le réconfort, mais là on va faire un peu l'inverse. Dans un instant, ça va gainer. On va parler abdos dans ce studio, mais on va y aller mollo, ne vous inquiétez pas.
11h30 sur Europe 1. Le meilleur de Bienfait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est Bienfait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure consacrée à toutes les tendances du moment, celles qui nous font du bien, qui nous rendent le quotidien plus facile, plus agréable. Et pour être bien et en forme, eh bien, s'il y a une chose qui est importante, c'est pas de manger du Mont d'Or, même si c'est très agréable, mais c'est de bouger, de se muscler. Aujourd'hui, Jean-Marc Delorme, on va parler d'un truc que j'ai pas, moi par exemple, peut-être parce que trop de Mont d'Or, justement, les abdominaux, ils sont cachés sous la couche.
Sous le vacherin, voilà.
Le gainage, c'est le terme employé hein, pour travailler cette zone-là de notre corps, ces abdos-là, ces muscles-là. Être très gainé, c'est la qualité vraiment extrême de chaque sportif, enfin de vrai sportif.
Alors on parle beaucoup de gainage, hein. Tout le monde parle de gainage. Merci. Voilà. Alors le gainage, en fait, au départ, c'est les muscles qui vont nous permettre, le développement des muscles qui nous vont permettre de protéger le rachis.
Donc, au départ, c'est ça. Pas qu'esthétique. Hein.
Ce n'est pas qu'esthétique et ce n'est pas que la ceinture lombo-abdominale. D'accord ? Par extension, on va travailler surtout les muscles transverses. Donc, ce sont des muscles avec des fibres longitudinales hein, qui s'arriment sur les cinq vertèbres. D'accord ? Et le travail de ce muscle-là va permettre de resserrer un petit peu la périphérie abdominale et aussi d'avoir un soutien au niveau des viscères, etc. Donc, c'est un esthétique. Enfin.
Les tablettes de chocolat, ceux qui les ont sont très contents.
Et deux, c'est très esthétique. C'est pas les tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat, on les travaillera avec le grand droit, avec des mouvements qui sont des relevés de buste. Mais ça, je le conseille pas fortement parce que c'est très bien pour ceux qui font des sports de combat, par exemple, pour avoir une protection,
c'est
pour freiner un petit peu
sûr.
Sur la plage, hein, d'accord. Mais c'est pas ce qu'on fait en premier. On travaille le transverse et en plus, après 40 ans, ça risque de pousser un petit peu les viscères vers, vers le bas.
C'est pas terrible.
Ouais, on n'aime pas ça.
Donc en fait, si je comprends bien, le gainage, c'est pas forcément pour les tablettes de chocolat, mais ça va aider à avoir un ventre plat. On va quand même réduire un peu la circonférence, non ?
Absolument, ouais, ouais. C'est ça. On diminue la périphérie du ventre et en plus, voilà, y a ce fameux maintien.
Jean-Marc, comment on va organiser une séance de bon gainage, on va dire ? Alors, pas pour les tablettes, on l'a compris, mais pour cette sangle bien solide.
C'est très simple. Soit on peut faire une séance de gainage après un effort sportif, à condition que ce ne soit pas un effort violent. Hein, si on a déjà travaillé le dos sur des séances intenses à cause des positions qui risquent d'être erronées, on fait un peu attention à ça. Et après, on peut directement donc travailler 15 à 20 minutes des séances de gainage, pas plus. Hein, c'est pas la peine.
15 à 20 minutes, c'est énorme. J'imagine la planche, parce que moi je connais que ça en gainage.
En variant les différents
parce
mouvements.
Que je tiens 3 minutes, hein, pas
en
plus.
En variant les différents
d'accord.
mouvements.
On fait des pauses quoi aussi.
On fait des pauses. Voilà. Hein. Alors minimum 30 secondes par exemple si on parle de la planche. Ah. Et puis on essaye d'arriver jusqu'à brûlure. Hein, la brûlure, d'accord. c'est vraiment ce qui nous,
nous
indiquera qu'on est bon.
Alors, il faut que ça brûle. Okay.
Voilà. On peut se mettre sur les côtés aussi. On peut faire la planche sur le côté.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs exercices. Hein,
oui, il y a quel exercice efficace et facile. Alors, hein. Comme la recette de Kromeski, je veux du facile. Moi,
alors, par exemple, évidemment, la fameuse planche, hein, on va se positionner donc, sur les coudes. L'humérus va être perpendiculaire au sol. On est sur les pointes de pied.
Ah, Julia se met donc, sur europe1.fr. Voilà, vous pouvez regarder la séance de gainage. De Julia Vignali, qui n'a peur de rien.
Formidable, voilà. Donc, et on essaye.
On voit la différence
sûr.
Entre elle et moi. Je me suis jetée sur le Mont d'Or, elle se jette sur les abdos. Je sais
de ne pas creuser le dos.
Elle
bien
tient
sûr.
Bien. Hein.
On voit qu'elle est habituée quand même.
On voit qu'elle est habituée.
Hein. Voilà. Mais c'est important. On peut se faire mal en faisant ces choses-là. Le mouvement est important.
Alors,
si
on respecte la position du dos, hein, qui est pas qu'on courbe pas.
Faut pas cambrer.
Qu'on cambre pas le dos, il n'y a pas vraiment de souci. Hein. Voilà. Donc, alors, ça, c'est pas.
Moi, Jean-Marc, mon prof de sport me met un verre d'eau. Rempli à ras-bord quand je fais mon gainage.
Ouais.
Et comme ça, je ne bouge pas parce que sinon, le verre se renverse sur moi.
Il est sur votre dos. C'est
une technique. Ça peut être une technique.
Ou il y a le fouet autrement.
Donc,
pas quand on commence le verre d'eau. Hein, parce que sinon...
Donc on peut faire une planche et puis aussi sur le côté pour travailler les obliques. Donc la même chose, on va poser le coude au sol, l'autre bras vers le haut. Basket contre basket, les bras tendus, on décolle les hanches et on attend que ça se passe.
Ouais, c'est très difficile à faire, hein, mais ça, il faut le faire. C'est quoi la fréquence ?
Alors,
la prescription.
Alors, c'est bien tous les deux jours. Hein, et il y a un petit circuit qui peut être pas mal à faire.
J'allais dire, vous avez un petit programme au quotidien qu'on peut faire.
Exactement. Alors, par exemple, vous pouvez faire ça et ça sera très bien. Vous allez voir les résultats dès 6 semaines. Hein, c'est
si vite
hyper
que ça.
Efficace.
Ouais. Donc tous les matins, on réveille. Admettons.
Ouais. Sauf si vous mangez du Mont d'Or entre.
Non, ça.
Mais si vous avez une alimentation normale, équilibrée.
Au réveil, on fait quoi ? 30 secondes de planche.
En planche. Ouais. On commence par les planches. Après,
secondes.
On peut se mettre en dynamique. Parce qu'il y a aussi, on est plus sur du gainage à proprement parler, mais ça en fait partie. On peut faire des petites pyramides. Donc, on va lever les fessiers vers le haut.
D'accord.
Et on va redescendre en rentrant le nombril et en serrant les fesses.
Ah oui, donc avec le corps, on fait comme un triangle. Effectivement, on est au sol. Hein,
exactement.
On est d'accord,
donc,
hein, c'est ça.
Toujours en position de planche, hein,
voilà,
c'est toujours pareil.
Toujours
on monte les fessiers et on redescend.
C'est des abdos un peu à l'envers, ça. Hein,
c'est des abdos à l'envers. À part que là, on est vraiment sur le transverse.
Ça brûle, quoi, c'est ça ?
Ça il faut que ça brûle. Et puis, le troisième, c'est qu'on peut, toujours en position de planche, on va rentrer les genoux en demi-rotation vers l'intérieur. Vous voyez ?
Ah oui,
hop, je lance d'un côté, puis de l'autre.
Le rentrée de genoux, toujours dans cette même position de planche.
Toujours dans cette même position, absolument.
Voilà. Vers l'épaule inverse, hein, c'est ça, on amène le genou vers l'autre côté. Quoi,
absolument, donc on regarde bien droit, pareil, on ne croise pas le dos.
On enchaîne ces trois exercices.
Et on enchaîne
donc,
ces trois
la planche,
exercices.
La pyramide et le genou ramené vers la poitrine.
Exactement. Temps d'effort égale temps de récupération. Vous faites ça deux fois,
tous les
six semaines, nickel.
Tous les jours, par contre. Hein.
Tous les deux jours.
Ah non, faut pas
tous les deux jours, c'est bien.
Oui, doucement.
Ouais.
Hein. Bon, bah merci beaucoup, Jean-Marc, pour toutes ces clés hein, pour effectuer ces mouvements sans se blesser, car c'est important aussi. Maintenant, Docteur Beauty, je me tourne vers vous. C'est à vous de jouer. J'ai le regard un peu triste. J'ai l'impression que je suis cernée. Oui.
Non.
Mais elle se lève très tôt, Julia, à cause de la
c'est
télé.
Vrai.
Qu'est-ce qu'on peut faire contre les cernes ?
Je voulais savoir si vous saviez un petit peu quelles étaient les différences entre quand on parle de cernes, de poches, de ridules, etc. Par exemple, le cerne, pour vous, qu'est-ce que c'est ?
On dit un cerne.
cerne d'ailleurs. Moi, je disais une cerne.
Oui, on dit un cerne. Le cerne, ouais. Le cerne coloré.
Et bien, c'est un creux, non?
Ah oui, c'est une valise, un cerne. Hein,
voilà,
c'est ça.
C'est d'accord. Le cerne, en fait, c'est la coloration en dessous des yeux, même autour. Cette coloration foncée, elle est souvent due à une riche vascularisation dans la région. Donc, il y a beaucoup de petits vaisseaux et la peau est très fine. Donc, on voit par transparence si la circulation est mauvaise, donc le sang n'est pas très oxygéné, on voit la coloration. Elle peut être accentuée par donc, la fatigue visuelle, l'ordinateur, etc., le tabac et une mauvaise hydratation autour de l'œil.
Bon, le tabac, décidément, ça fait tomber les cheveux. C'est très mauvais pour la santé, y compris pour les cernes. Bon,
y compris pour les cernes.
Est-ce qu'il existe un traitement pour les cernes?
Alors, pour les cernes, malheureusement...
non, je suis venue, mais j'ai rien pour vous.
J'ai rien à vous proposer parce que, en fait, il y a beaucoup de techniques différentes, mais il n'y a pas de consensus. Quand on parle des rides du front, on parle de Botox, c'est consensuel, donc tout le monde utilise la même chose. Là, malheureusement, chacun fait un peu
à sa sauce.
À sa sauce. Bah,
y a l'anticerne,
et du coup, il n'y a pas
vraiment.
Donc, le bon anticerne, ça peut aider. Hydratez-vous bien et toutes les mesures préventives sont importantes. Quand on parle de la différence aussi avec la vallée des larmes, est-ce que vous voyez ce que c'est la vallée des larmes?
Non, moi je confonds avec les cernes, c'est pas le creux
voilà.
Là.
La vallée des larmes, exactement, c'est le petit creux qu'il y a à côté du cerne. Donc ça, la vallée des larmes, pour le coup, on peut le traiter. On peut corriger ce petit creux en injectant un peu d'acide hyaluronique.
Ah, mais c'est... moi j'avais entendu dire que c'était dangereux à cet endroit. C'est vrai ça, docteur?
Effectivement, il faut le faire chez un praticien habitué. L'acide hyaluronique, ça peut causer des effets secondaires, des petites boules, des réactions allergiques, de l'œdème. Donc il faut faire ça chez quelqu'un d'habitué.
Oui, bon. Alors c'est possible d'avoir des poches sous les yeux et le creux, les deux?
Ouais, ça arrive très souvent.
C'est le spécial
non,
combo.
C'est ça, c'est le combo.
C'est ça.
Donc les poches sous les yeux, c'est des petites boules de graisse, effectivement, qui donnent l'air fatigué. Donc ça, pour les retirer, il faut les opérer. Et on peut malheureusement aussi avoir la petite vallée des larmes à injecter. On peut l'injecter soit avec de la graisse
la
pendant
totale,
l'opération,
quoi.
Soit avec de l'acide hyaluronique après.
Et ça donne de bons résultats, là? On est les patientes en général, je dis patientes, mais les hommes ont bien sûr le droit de.
C'est plus d'ailleurs
de
une opération.
C'est
l'opération numéro 1 chez l'homme, hein, la blépharo inférieure. Les poches sous les
la
yeux, ça s'appelle une blépharoplastie.
D'accord.
Et effectivement, ça touche bien, beaucoup plus les hommes que les femmes.
Il y a des gens qui n'en auront jamais, Marion Sauveur, en dehors du fait qu'elle est très très jeune. Ouais. Voilà, elle a absolument rien. C'est le Mondor, ça protège peut-être.
Mondor,
non,
protège.
Je ne sais pas, mais il y a des gens qui n'en auront jamais, non, peut-être.
Il y a des gens qui en auront en tout cas moins, mais ça apparaît quand même globalement toujours un petit peu avec quand
le
on
fromage ne suffira pas.
Et
Marion.
La fatigue, ça ne fait pas apparaître les cernes, c'est pas
la,
ça.
Bien sûr, la fatigue visuelle. Alors souvent, on confond aussi les poches et le petit muscle qu'on a sous les cils, le muscle orbiculaire. En fait, des fois, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir en me disant « mais je viens pour les poches » et on a un petit contour sous les yeux. Ça, le Mondor n'y fait rien.
Malheureusement.
Et ça, c'est parce que vous regardez trop sur l'ordinateur, vous contractez beaucoup le muscle et le muscle orbiculaire est musclé, ça fait une petite épaisseur sous les cils. Et souvent, les gens confondent poche et hypertrophie du muscle orbiculaire.
Alors, quitte à se faire opérer, hein, mettons, on est d'accord.
Pour la blépharoplastie.
Pour la blépharoplastie, est-ce que pendant que vous allez enlever la poche, est-ce que vous allez en profiter pour enlever les rides?
Alors, les rides, c'est un peu différent. Les rides, on peut les retirer si
elle
on a un
ex... Elle se renseigne pour une amie. C'est pour une amie, hein, c'est pas pour moi, évidemment.
Les rides, en fait, c'est difficile de retirer les rides dans cette région parce qu'on a un risque, c'est de changer de regard. Quand on tire trop sur la peau dans la zone inférieure, on peut avoir l'œil qui devient rond. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de ça.
Non,
on peut avoir l'œil un peu, ou même carrément, on voit un peu plus la conjonctive, ça s'appelle un ectropion. Donc, il faut faire ça avec parcimonie. Si on a un excès de peau, on le fait. Sinon, on peut proposer un peu de laser.
Je pense que votre amie n'a plus envie de le faire, là.
Non,
ça y est.
Je vais lui téléphoner et lui dire de ne pas le faire tout de suite.
Réfléchir.
11h30 sur Europe 1, le meilleur de bienfaits pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Et tout de suite, eh bien, on va rester dans le joli, puisque c'est votre tour, Maud Ravier. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose avec vous. On a besoin de vos conseils d'expertes pour raviver un petit peu ce regard-là qui se ternit peut-être en automne. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de nos cils?
Bon, alors, il y a plein de techniques, mais la technique un peu glamour en ce moment, c'est quand même les extensions de cils.
Oui, tout le monde en a. Mais alors, justement, moi j'adore, mais parfois c'est trop. Il y a plusieurs...
Complètement.
J'ai l'impression qu'il y a plusieurs techniques.
Il y a plusieurs styles. Soit on va choisir un style naturel, cils à cils, c'est-à-dire qu'on prend un cil, fibre de soie très fin, qu'on vient coller cil par cil, et là on est sur une pose naturelle. Soit on a envie d'un petit peu plus de glamour, on va choisir la technique volume russe. Et là en fait, il faut comprendre que ce sont trois cils qui sont posés sur un cil. Donc clairement, on a beaucoup plus de volume.
D'accord. C'est peut-être un secret, mais on peut vous poser la question. Vous, vos cils magnifiques, là, c'est des vrais ou pas?
Non, c'est pas des vrais.
Ça se demande pas.
Alors, non, ce qui est génial, c'est que si vous me demandez, c'est qu'a priori, ils sont naturels.
Mais ils sont magnifiques surtout.
Donc c'est ça l'intérêt. C'est alors
ah non,
c'est
coquine.
Fait ou c'est pas fait?
C'est très très bien fait. C'est très joli.
Mais ce sont des faux.
Ah
oui,
là là,
et c'est
un volume russe ou un volume naturel?
Non, c'est un volume russe, mais comme je prends une courbure très naturelle, ça reste vraiment élégant. Parce qu'il y a plusieurs courbures dans les lignes de cils. soit très très recourbé et dans ce cas-là bah, on voit tout de suite, et soit on garde une courbure toute douce et là je vous conseille.
Vous irez voir Maude sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, elle a des cils magnifiques. Alors quels sont les avantages, Maude?
Bah, les avantages, évidemment, d'avoir des yeux toujours impeccables. Je pense que nous, les femmes, on sait ce que c'est que cet avantage. On se lève, on est impeccable. On va à la piscine, on est impeccable. Le mascara qui ne coule pas. On ne se démaquille pas. Voilà, c'est le luxe absolu.
Alors, vous dites on va à la piscine, ça veut dire que ça risque pas de tomber, justement quand...
Non, ce sont des vrais cols, donc des cols hypoallergéniques.
Ça abîme pas les cils, du coup?
Alors, bah, ça peut abîmer les cils si c'est mal fait, si les cols ne sont pas bonnes, et surtout si les cils sont trop épais et que, du coup, ils prennent du poids sur la ligne de cils naturelle. Mm-hmm. Il faut faire attention aussi chez qui on va. C'est-à-dire que si elle utilise des cols très bas de gamme, ça peut brûler un petit peu le cil. Et surtout aussi, si vous avez affaire à une mauvaise technicienne, elle va mettre des cils synthétiques partout, même sur les bébés cils. Donc ça les casse.
C'est quoi les bébés cils?
Bah, c'est les cils qui sont en train de naître.
Ah, parce que ça repousse en permanence.
Mais
comme les cheveux, normalement.
Les tout petits cils. Voilà. Si on colle dessus, on peut être sûr qu'on les casse. Après, on ne pourra plus faire d'extension.
Vous qui pratiquez ça dans votre salon, votre institut, c'est de quoi comme colle? Qu'est-ce qu'on demande justement? Parce que vous dites attention à la colle qui sera utilisée, mais moi je ne sais pas, entre la colle UU, la colle...
Il faut aller sur des belles marques françaises, j'ai envie de dire, des colles certifiées européennes. Il ne faut surtout pas aller chercher des colles qu'on pourrait trouver un petit peu...
Des colles véganes, ça existe, hein,
Des colles véganes. Il ne faut surtout pas aller chercher des colles... des cols qu'on pourrait trouver bas de gamme, mauvais marché. Et d'ailleurs, on le sent quand on pose l'extension de cils, tout de suite, ça brûle les yeux. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Hein.
Et dites-moi, ça dure longtemps, ça, ces extensions?
Alors, soit on se fait un petit plaisir avant un mariage, avant une fête, et dans ce cas-là, on est sûr que pendant 3 semaines, 1 mois, on a un regard de biche assuré. Mmh. Et puis après, on laisse l'extension de cils s'en aller naturellement.
C'est-à-dire que ça tombe ?
Oui, ça tombe avec le cycle des cils.
Cils après cils, quoi. On perd pas tous les cils le même jour. Quoi. Non. Je me retrouve un jour avec un œil avec des cils, l'autre sensible.
Ah bah c'est ballot,
mais excusez-moi, mais très bonne question. Encore une très très bonne question de Mélanie Gomez.
Parce que j'y connais rien, non, Julien.
C'est pas bizarre, justement, si on perd pas tous les cils en même temps, parce qu'on peut avoir, l'œil gauche encore bien fourni.
Si, à un moment donné, il peut rester quelques touffes de cils. Et dans ce cas-là, c'est bien aussi d'aller les faire retirer chez la professionnelle. Oui. Donc, vous avez cette solution-là quand c'est juste pour une fête. Et sinon, vous avez, comme moi ou comme beaucoup de femmes, parce qu'après, on est complètement addict, c'est de faire des retouches toutes les 3 semaines, 1 mois.
Donc, vous êtes tout le temps d'assurer. Comme ça, en fait. C'est ça.
Bah ouais, je suis désolée.
Mais non, vous avez bien de la chance. Des jolis cils, d'ailleurs.
On les maquille. Ou ils sont déjà maquillés?
Alors, ils sont déjà épais, noirs et fournis. Donc, normalement, ce n'est pas la peine de les maquiller. Mais il existe des mascaras exprès pour les extensions de cils. C'est-à-dire que si un soir, vous avez envie d'un petit peu plus encore de volume, il existe des mascaras à base d'eau.
Et les vôtres, vous les avez maquillés, par exemple, là? Vous avez rajouté un peu de mascara?
Non, je n'ai pas rajouté de mascara, mais je suis en fin d'extension. Là, je dois refaire la semaine prochaine.
D'ailleurs, ils vont tomber,
Julien. Il y a des trous.
Combien ça coûte? C'est important, ça aussi, le tarif, quand même.
Alors, une pose naturelle, c'est 150.
Voilà, en
et
moyenne.
Puis,
hein.
Oui, une volume russe, il faut compter 250-300 euros.
Et les retouches?
Et les retouches sont moins onéreuses, bien sûr, parce que ça prend moins de temps. C'est quand même un travail très minutieux et très précis. On colle cil par cil. Il faut compter entre 80 et 100 euros.
Dernière question rapide. Si je ne supporte pas les extensions de cils, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour avoir des yeux comme vous, Maude?
Bon, c'est important, parce que c'est vrai que parfois on peut être allergique aux extensions de cils. Il y a une nouvelle mode, ce sont les cils magnétiques. Donc c'est très compliqué à mettre au début. C'est 10-15 minutes d'apprentissage, mais après c'est d'une facilité rare. Et après, ce qui est exceptionnel, c'est les produits tels que Revitalash, Mise en cils. Ce sont des produits qui sont extrêmement compétents pour faire pousser la pousse naturelle des cils.
Voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Nos meilleurs moments, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais nous serons évidemment de retour lundi avec encore un très beau programme. De toute façon, si vous avez loupé aujourd'hui, hier, avant-hier, n'hésitez pas à vous nous retrouver sur europe1.fr. Tous nos podcasts sont disponibles. Et puis lundi, Julia, de quoi va-t-on parler?
Eh bien, Mélanie, lundi, nous parlerons de comment commencer l'année du bon pied. Bah oui, il ne faut pas se louper dès le début 2022. Bien fait pour vous et mobilisé pour que cette année soit flamboyante. Évidemment, d'ici là, on vous souhaite un très joyeux réveillon à tous.
Bon réveillon!
Bon réveillon et rendez-vous lundi dès 11h sur Europe 1.